Notre émission de ce jour est la première d'une nouvelle émission de Radio Canut. Le titre en est Vendémiaire et vous pourrez retrouver chaque lundi à 20h cette nouvelle émission. Vendémiaire est une émission culturelle protéiforme qui aura commencé en Vendémiaire. Vendémiaire, le premier mois du calendrier révolutionnaire. Vendémiaire se propose d'être à chaque fois le départ d'une réflexion qui ira son chemin le temps passant. Vendémiaire évoque le temps des vendanges, cueillette et pressage des idées, puis mise en fût où elles procéderont à leur macération et maturation. Et au tonneau du fruit de ces vendanges-là, on pourra toujours venir soutirer. Vendémiaire, aussi le nom donné au premier maquis dans le Rhône qui se constitua en mars 1943, une manière de lui rendre hommage pour une émission qui vous propose de prendre le maquis d'une culture embrigadée et embourgeoisée. Au fil des semaines, on pourra y retrouver, dans une situation d'entretien, des personnes parlant de leur vécu actuel ou passé. Des émissions sur une thématique annoncée avec des créations radiophoniques, théâtrales et ou lectures de textes singuliers, rares, inédits, etc. Des incursions vers l'histoire, les luttes sociales, la politique, la musique, le cinéma, la chanson, le théâtre, etc. L'émission Vendémiaire proposera à ses auditeurs d'entendre des voix humaines en situation d'entretien, donc des rencontres avec des personnes qui parleront de leur vie ou de certaines expériences de leur vie. Mais Vendémiaire proposera aussi des émissions thématiques qui évoqueront des sujets un peu particuliers et offriront un point de voir sur ceux-ci qui sortent un peu du banal convenu ou qui mettront en avant des sujets, des écrits, des sons, des idées susceptibles d'intéresser les uns ou les autres. Qui sait, quand on commence un entretien pour la radio, ce qu'il va en être, en sortir. La situation est partie prenante du contenu de ce qui va être dit. Et c'est cet aspect mystérieux de l'aventure radiophonique auquel nous nous proposons de nous livrer avec forcément des bonheurs variables, mais aussi des choses à entendre au deuxième degré ou à deviner dans les interstices des mots dits. Cette émission se propose de cultiver l'art de l'écoute et de la liberté de parole, de traquer le mystère de ce qui se dit non exprimé à travers les mots dits. Pour honorer cette première émission, nous vous proposons un entretien avec Maurice Pierre. Maurice Pierre est aujourd'hui âgé au moment de la réalisation de cet entretien de 88 ans. Il est un des derniers survivants, peut-être le dernier, en tout cas le seul que nous ayons pu rencontrer, du maquis Vendémiaire, qui fut le premier maquis créé dans le Rhône en mars 1943. Il a bien voulu nous rencontrer et évoquer pour nous les souvenirs de son parcours de vie et de résistant durant la guerre 1939-1945. Nous le remercions chaleureusement et ce seront donc deux émissions, les deux premières de cette nouvelle émission Vendémiaire que nous allons lui consacrer. Nous vous proposons donc de retrouver Maurice Pierre au fil de notre conversation, que nous agrémenterons de quelques plages musicales et aussi de quelques commentaires pour éclairer nos propos.
Pierre Laval, qui ne partent pas pour l'Allemagne, pour sol natal. On leur reproche leur hardiesse, mais lorsqu'on vit à travers bois, ce n'est pas avec des promesses que peuvent vivre dehors la loi. Mais après tout, qu'est-ce que ça fout, on s'en fout. Aux aguets tous camarades, sachez bien que contre nous, oui contre nous, guerre la balle et ses brigades n'épargneront pas leur coup, pas leur coup. Alors que notre courage, aiguisé par notre rage, va se vaincre la police, les poches et la milice. Mais demain, ce soir peut-être, nos ennemis verront leur fin. L'Europe changera de maître et seul guidera son destin. Les prolétaires dont la souffrance n'a pas enlevé l'espérance, ils feront dans chaque province en quelque sorte un paradis. Oui, mais pour tous, oui, pour tous, oui, pour tous. Aux aguets tous camarades, sachez bien que contre nous, oui contre nous, guerre Laval et ses brigades n'épargneront pas leur coup, pas leur coup. Alors que notre courage, aiguisé par notre rage, nous fasse vaincre la police, les poches et la milice. On a dit la France vendue, mais par la vallée Pétain. Mais elle ne s'avoue pas vaincue, quoi qu'en disent ces deux crétins. En nous, elle aurait sa revanche, puisque nous sommes des révoltés. Et nous saurons bien pendre aux branches, tout s'est vendu, tout s'est raté. Oui, mais pour tous, oui, pour tous, oui, pour tous. Aux aguets tous camarades, sachez bien que contre nous, oui contre nous, guerre Laval et ses brigades n'épargneront pas leur coup, pas leur coup. Alors que notre courage, aiguisé par notre rage, nous fasse vaincre la police, les poches et la milice.
Maurice Pierre, bonjour. Je vous remercie de me recevoir pour cet entretien pour Radio Canut. On va évoquer votre parcours de vie, plus particulièrement la période de la résistance et de la guerre. Mais on va peut-être commencer au tout début. Donc vous êtes né à Sochaux, à quel moment, quelle année ?
Le 30 septembre 1923.
Et vous avez vécu votre enfance
jusqu'en 1937.
En 1937,
on a déménagé pour Lyon. Du fait que mon père étant communiste, on n'avait plus de travail dans la région.
Qu'est-ce qu'ils faisaient jusque-là, vos parents ?
Mon père était mouleur à la main. Donc, arrivé à Lyon, le jour de mes 14 ans, je suis rentré aux aciéries du Rhône, à Lyon, comme apprenti mouleur à la main.
Dans la même entreprise que lui, en fait.
À 12 ans, je faisais 1m72, 72 kilos. Le jour de mes 15 ans, j'ai dit à mon père, je veux bien travailler associé avec toi, mais associé en paye. C'est-à-dire, tu chopes le contremaître et je veux la même paye que toi. Et j'ai obtenu la même paye que mon père, le jour de mes 15 ans.
Et en 36, vous dites qu'il a dû quitter la région de Montbéliard. Qu'est-ce qui s'était passé, en fait ? Il avait... C'est 36, les grèves de 36 qui...
Non, c'est bien avant, c'est les grèves de 1920. Pour les grèves de 1920, mon père a renversé un encrier sur le... Dans ce temps-là, ils avaient des manchettes, le patron de Rosengard, parce que Peugeot était presque en faillite, et Rosengard venait pour acheter Peugeot. Et dans la réunion, mon père s'est énervé Il a donné un coup de poing sur le bureau, l'encrier dans ce temps-là, c'était des encriers, s'est renversé sur la manchette de M. Rosengard.
Malheureux qu'en République, il y a du moyen de travailler. Les employeurs sont des bourriques qui ne considèrent plus l'ouvrier. Ainsi je grattais à la villette, quand on va dire l'autre matin, il va y avoir 3 jours de fête, vous ferez le pont, ça vous ira bien. J'ai commencé par engueuler le patron en y disant, vous êtes qu'un sale cochon. Les travailleurs, il faut les respecter. Je m'ai mis en grève et j'ai tout plaqué. En faisant mon apprentissage dans une charcuterie rue Têtebout, j'essayais de faire l'étalage et c'était pas commode du tout. La patronne s'écrie, tu l'es bête, plongez dans votre langue sur vos pieds, vos rognons sur les petites tablettes et votre andouille dans le saladier. Oh, j'ai commencé par engueuler le patron en y disant, vous êtes qu'un seul cochon, les travailleurs, il faut les respecter. Je m'ai mis en grève et j'ai tout plaqué. Pour un peintre en lettres et virgules, travailler chez un marchand de pain, va les mettre en lettres majuscules au coq d'or sur son magasin. Pose des péchés, il faut en mettre. Aime-t-il contre-maître, montez là-dessus. Pendant que je vais faire les autres lettres, prenez le pinceau et faites le cul. Oh, j'ai commencé par engueuler le patron en y disant, vous êtes qu'un seul cochon, les travailleurs, il faut les respecter. Je m'ai mis en grève et j'ai tout plaqué. Oh, il y a les patrons.
Donc mon père a été viré à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, chaque fois que mon père trouvait du travail dans une fonderie dans la région, on lui disait « Oui, tu commences lundi, il vient avec les bleus. » Et quand il arrivait, on lui disait « Ben non, il y a le directeur qui a embauché un autre. Hein. » Et mon père a été manœuvre de maçon jusqu'en 1937, où on en a vraiment eu marre. Et on est parti à Lyon.
À Lyon.
Était travaillé aux aciéries du Rhône à Lyon, à mon plaisir.
Et à Lyon, ça s'est mieux passé. Alors, pour vous et pour lui, ça a duré jusqu'à quand, ce travail en usine?
Ah, ben oui, parce que, bon, on a travaillé aux pièces jusqu'à la débâcle, quoi. Et après, mon père, il avait été blessé pour la guerre de 14, il a reçu une balle dans une cuisse, donc il a quitté, et on habitait après, à Jonage, qui était dans l'Isère à ce moment-là. Donc mon père faisait à ce moment-là l'élevage du lapin. Il y avait plus de 600 lapins. Et en même temps, de maraîcher, quoi. On faisait les marchés pour vendre les lapins à ce moment-là, pendant la guerre, là, à 2 et 3 mois pour que les gens élèvent leurs lapins chez eux. Hein. Donc ils avaient par le fait une petite fortune, quoi. Qu'il a fallu qu'ils réalisent en vitesse. Quand j'ai eu la milice au cul. Et on est revenu dans la région, mes parents ont acheté ce commerce à Besançon. Ouais.
Mais en 40, donc, la débâcle, vous disiez, vous êtes parti, toute la famille? Non, vous êtes resté à Jonage?
Nous, on est resté à Jonage.
Vous aviez quel âge à ce moment-là? Vous aviez
16... En 39, j'avais 16 ans. 16 ans.
Et la déclaration. Souvent, les jeunes disaient qu'ils avaient peur que les Allemands les enrôle ou les mutile et tout, vous êtes passé à côté de ça, vous.
Moi, le jour que les Allemands sont rentrés à Lyon, eh ben, je pêchais la bouteille de carbure dans les temps du grand emprunt, à Jonage, je faisais péter. Non, j'ai jamais eu peur.
Là, il ne s'est rien passé pour vous.
Enfin, non.
Vous n'étiez pas en pleine ville non plus.
Non. Alors, te dire, en 42, là, je m'étais engagé, donc je me trouvais en congé d'armistice. Alors là, après, ben, j'ai déserté les chantiers de jeunesse.
Ouais, on va un petit peu vite, là. Donc, 40-41, vous faites quoi? Vous continuez?
Je suis mouleur à la main.
Toujours.
Jusqu'à ce qu'on me demande de faire les patins de char pour les Allemands. Alors là, faut pas y compter. Donc j'ai pris mon compte. Donc, le directeur m'a dit, vous êtes réquisitionné. J'ai dit, moi, personne ne me réquisitionne, je fais ce que je veux. Et j'ai pris mon compte. J'ai travaillé à la brasserie Vinclair à Lyon. J'ai conduit des camions électriques, maintenant qu'on parle tant d'électricité. Ça existait déjà. Hein? C'était l'usine Bell qui faisait les camions Sauvel à Lyon. Et moi, j'ai conduit ces camions électriques à la brasserie Vinclair, bien que je n'ai pas mon permis poids lourd. Il n'y a pas de chauffeur dans ce temps-là.
Ouais. Pour livrer la bière dans les
bistrots. Oui, dans les bistrots. Parce que moi, j'ai passé mon permis de conduire en 1939. Parce qu'ils avaient mis à 16 ans.
Ah oui.
Et moi, j'ai passé mon permis à 16 ans.
Et politiquement, à l'époque, vous étiez aux jeunesses communistes, vous étiez organisé ou...
Mais non, parce que en étant en campagne, on n'avait pas de
contact comme
c'était
ça.
C'était pas possible, non. Puis je connaissais personne. Et puis, on était mal vus. On était mal vus parce qu'on est d'ici, ou je veux pas dire du mal des Lyonnais, mais où on avait l'habitude de travailler dur. Et on arrive à Lyon, vous avez l'habitude de travailler mou. Un petit peu le travail. Hein.
Donc votre sensibilité sociale, politique, elle venait de votre père, quoi.
Plutôt, voilà.
Plus que de, nous, des c'est mouvements un, de jeunesse ou d'autres
c'est
choses.
C'est un chef d'équipe des Aciéries du Rhône, qui était un gars de Montbéliard, qui nous a fait venir là-bas, à Lyon. Pour travailler comme mouleur à la main. Bon, avant de travailler de mouleur à la main, j'ai travaillé un mois comme barman au grand café Carnot, place Carnot, à Lyon, devant la gare de Perrache. Quand il a voulu me mettre aux assurances, bon, j'avais pas 14 ans, il n'avait pas le droit. Et après, j'étais travaillé 15 jours à la brasserie d'Alsace, cours, je promets, j'étais au Breton, choucroute garnie à l'Alsacienne. J'ai travaillé 15 jours jusqu'à ce que j'ai 14 ans.
Vous connaissez les actualités d'avant-guerre et les premiers films de Charlot. Leur décor pourrait être celui du Grand Café, de ce café de province où les joueurs de manille fument et crachent dans une atmosphère d'aquarium et de plantes vertes. Voici la chanson que le Grand Café m'a inspirée. Au Grand Café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard, bien installé devant la grande table. Vous avez bu, quelle soif indomptable. De beaux visages fardés vous disaient bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au Grand Café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur, bien installé devant la grande table. On écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris Soir, et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du Grand Café. Par terre on avait mis de la sciure de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit, bien installé devant la grande table. Vous invitiez des ducs, des connétables. Quand il fallut payer, soudain l'addition, vous avez déclaré, moi, j'ai pas un rond. Cette phrase-là produit un gros effet, on confisque à tous vos effets, vous étiez fait au Grand Café. Depuis ce jour, depuis bientôt 60 ans, c'est vous le chasseur, c'est vous le commis de restaurant. Vous essuyez toujours la grande table, c'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café plein de manieurs. Vous étiez beau, le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer au grand café, au grand café.
À 14 ans, je suis rentré comme apprenti mouleur à la boîte. Et je me suis engagé en 1942.
Oui, donc en 1942, finalement, c'est vous vous engagez, pas parce que les Allemands veulent aller vous faire travailler en Allemagne, mais parce que vous voulez vous émanciper de...
Parce qu'on avait entendu, des bruits que peut-être ils allaient débarquer là-bas. Donc on voulait aller là-bas.
En Algérie.
En Algérie. Voilà pourquoi on s'est engagé.
Alors cet engagement, vous l'avez fait à quel endroit ?
À Grenoble.
À Grenoble.
À Grenoble, à la caserne de Beaune, à Grenoble. Puisque dans ce temps-là, Jonas, j'étais dans l'Isère. Donc il a fallu aller à Grenoble. Et j'attendais le bateau à Marseille. Alors j'étais à la caserne d'Aurel, à Marseille, prêt à partir là-bas. Quand ils ont débarqué, on n'a pas pu partir.
Oui, donc au moment du 11 novembre...
Le 8,
le débarquement.
Ils sont débarqués le 8 novembre.
Et le 12, le 11, l'invasion.
Et moi j'avais signé le 2 novembre, mon engagement.
Et vous aviez signé pour quoi, pour combien de temps ?
Trois ans. Ouais.
Dans l'idée que la guerre serait gagnée d'ici là ou que...
Moi j'ai toujours été partisan de la manière forte, hein. Moi, quand je suis arrivé au maquis, j'ai dit au chef du maquis, Pétain fait le don de la personne à la France, moi je l'ai fait à mon parti. Donc automatiquement, on m'a viré au groupe de récupération, quoi.
Mais votre adhésion au PC, elle date de quelle époque ? Vous avez adhéré en étant militaire ou...
Non. J'ai adhéré au PC quand j'étais commerçant.
Beaucoup plus tard.
Oui, beaucoup plus tard. Parce que j'avais des amis à Vieux-Charmont qui s'occupaient du parti. Et justement, un jour, il m'a dit, pourquoi tu ne prends pas ta carte ? Ben, j'ai dit, fais-moi là ma carte. Je dis, où est-ce qu'il faut que je m'adresse ? Il m'a fait ma carte du PC, c'était peut-être en 50... Dans 58, par là.
Et toutes les années avant, vous sentiez proche du Parti communiste sans être adhérent ?
Sans être adhérent. Ben non, parce que jeune âge, hein, pays agriculteur dans ce temps-là, hein, il n'y avait pas de... Non.
Donc si on reprend le fil de l'histoire, donc vous avez failli partir en Algérie, mais finalement vous restez sur le quai, à Marseille, et qu'est-ce qui se passe à partir de là ?
Eh bien là, on nous a mis à Istres, pour protéger le terrain d'aviation de Istres. Donc ça n'a pas duré longtemps. Hein. Le 28 novembre, les Allemands supprimaient l'armée française. Donc je suis rentré chez moi. Mais pas pour retourner aux aciéries du Rhône.
Chez vous, à jeune âge.
Voilà, j'ai été coupé du bois, j'ai fait des fagots, et je ne suis pas retourné à l'usine. Parce qu'il fallait faire les patins de char pour les Allemands. Et moi, je ne voulais pas travailler pour les Allemands.
Et personne ne vous recherchait à ce moment-là.
Ah non, oui. Non, à ce moment-là, on était en situation logique, quoi. Mais au mois d'août, on nous dit, tous ceux qui n'ont pas fait 6 mois d'armée, doivent faire les chantiers de jeunesse. Donc il a fallu partir au chantier de jeunesse. C'était à Crotenay dans le Jura. Et moi quand je suis arrivé là-bas, je me suis fait porter et boucher pour avoir une bonne place, tant qu'il y en a eu une mauvaise, c'est moi qui faisais à manger. Et on a joué au football contre l'équipe de Molin, qui était chantier de jeunesse, qui gagnait la coupe des chantiers de jeunesse tous les ans. On les a battus, on nous avait promis un paquet de cigarettes, on nous a donné 5 cigarettes, on nous a fait manger à part, c'est d'accord, mais 5 cuillères de riz au chocolat en plus, j'aime pas ça. Donc j'ai dit aux copains, j'avais les deux lettres du bombardement de Sochaux, où j'avais un oncle qui avait été tué, et la maison de ma grand-mère qui avait été démolie, café-restaurant avec 16 chambres meublées au-dessus. Donc j'ai demandé à avoir une permission, on me l'a refusé. Donc j'ai déserté les chantiers de jeunesse.
Et vous n'y êtes jamais revenu?
Ah ben maintenant, j'ai déserté, ben, je suis parti avec les habits.
Et quel souvenir vous gardez de ces chantiers de jeunesse? C'était des culottes de peau qui encadraient ça? C'était de la franche camaraderie? C'était quoi?
Bon, c'était des pétinistes, quoi.
Pétinistes.
La preuve, c'est que je me suis retrouvé après, là, quand j'ai été à Lyon, en prison à Lyon, je me suis retrouvé avec un gradé des chantiers de jeunesse, après la libération, hein. Et puis avec un jeune Waffen-SS, qui était le neveu du président du Parti communiste de Vénissieux. Oh, j'ai dit, il doit être content, hein, ton oncle. Ah non, mais il s'est engagé, lui, pour voir du pays. Bah, j'ai dit, t'en as vu du pays? Oui, il en a vu. Alors, je me suis trouvé avec eux, en cellule, à Lyon.
Plus tard, on y reviendra.
Plus tard.
Sur les chantiers et tout au fond des mines, dans les bureaux convertis en prison, et dans les bagnes que sont les usines, des hommes crèvent en graissant les patrons. Debout, debout, compagnons de misère, redressons-nous, crions la vérité, quand notre sang fécondera la terre, de nos combats naîtra la liberté. Puisqu'en naissant, n'ayant pas eu de chance, nous avons vu le jour dans des cités où le soleil radieux de l'enfance était caché par le noir des fumées. Debout, debout, compagnons de misère, redressons-nous, crions la vérité, quand notre sang fécondera la terre, de nos combats naîtra la liberté. Puisque l'État dit français nous opprime, que les frisés s'engraissent avec nos os, puisque la force sur l'esprit domine, révoltons-nous, forgeons le renouveau. Debout, debout, compagnons de misère, redressons-nous, crions la vérité, quand notre sang fécondera la terre, de nos combats naîtra la liberté. N'attendons pas au combat, camarades, marchons unis, soudés par notre foi. S'il faut mourir, dressons des barricades pour que la vie demain ne soit que joie. Debout, debout, compagnons de misère, redressons-nous, crions la vérité, quand notre sang fécondera la terre, de nos combats naîtra la liberté.
Donc vous quittez les chantiers de jeunesse sans regret, et qu'est-ce que vous allez faire? Donc, une fois revenu à Montbéliard, pour retrouver la famille.
Non, à ce moment-là, je vais au maquis.
Tout de suite?
Oui.
Et vous vous souvenez plus comment vous avez trouvé la filière du
maquis? Non. Tout le monde, c'est pour ça que c'était pas... Tout le monde le savait. On m'a dit, tu prends le train et tu descends à Saint-Nizier-d'Azergue. Automatiquement, les gars sont là qui vous attendent. Tu es en maquis, allez, viens. Même ma mère qui est venue me voir un dimanche là-bas.
Ah oui.
Ouais, ben moi, c'était au mois d'août.
Oui, c'était au mois d'août.
Donc, il y avait même un docteur juif qui était là, à ce moment-là. qui nous a passé la visite à tous.
Alors, ce maquis, il y avait Jean Aligne.
Oui.
Il a fondé, vous l'avez connu, cet homme-là ?
Non, mais je l'ai connu là.
Là, oui. Quel souvenir vous avez de lui ?
Je suis arrivé vers le Jean, je lui ai dit, pétain, fais donc ta personne à la France. Moi, je l'ai fait à mon parti, moi, je ne suis pas venu pour me les glander, hein. Je suis venu pour la bagarre. Donc, je n'ai pas resté longtemps, mon nid d'aigle. Après, on est parti dans une autre ferme, le groupe de récupération. J'avais beaucoup avec moi des gars de Vienne, dans l'Isère, qui étaient au maquis avec moi dans cette maison-là. Mmh. Et un qui était, c'était un garçon boulanger, mais qui était du nord, là, au-dessus. Il chantait bien, il nous chantait des chansons le soir, pour pas qu'on trouve le temps long. Il chantait très bien. Mais moi, je descendais déjà faire des coups durs à Lyon, et je vais vous en dire une bonne. Quand j'avais repéré ce qu'on devait faire, suivant ce que j'avais besoin de gars, je téléphonais au marchand de vin que j'ai jamais connu, au marchand de vin de Lamure-sur-Azergue, et je lui disais, dites au grand Jeannot qu'il m'envoie demain 2 tonneaux, 3 tonneaux. Ça voulait dire 2 bonhommes, 3 bonhommes. 3 bonhommes.
Parce que vous étiez au maquis, mais vous descendiez à Lyon.
Ah ben oui.
Pour faire des coups.
Ah ben oui. Oui, nous, on a toujours été, que ce soit les attaques de mairie, les machins comme ça. Moi, j'ai participé à tous ces coups-là, jusqu'à ce qu'on soit attaqué par les Allemands. Alors, quand on était attaqué par les Allemands, bon, on avait perdu. On avait perdu la notion de... Si, je ne veux pas vous dire que... Je vous l'ai dit, moi. On était attaqué le jeudi. Le dimanche, je suis revenu faire un match de football avec l'équipe de Saint-Nizier-d'Azergues. Mais après, je suis redescendu. Et c'est là que je suis venu à Mandeur. Je ne savais pas où aller. Donc, j'étais revenu à Mandeur, dans de la famille, chez un cousin. Jusqu'à ce que ma grand-mère me dise que les gendarmes me recherchaient.
Sur le maquis, je crois savoir qu'en septembre 1943, il y a 5 évadés russes qui ont rejoint le maquis Vendémiaire. Ça, vous les avez croisés,
ces gens-là ? Les russes ?
Oui.
Oui.
Oui. Vous avez vu ces gens-là ?
C'est des costauds, ceux-là.
Ah bon ? Il y a 5, puis
ce maquis... Il y avait des Espagnols. Il y en avait un, d'ailleurs, qui a été arrêté, si j'ai bonne mémoire, quand le pauvre Tatane a eu son coup dur.
Ici, une précision que nous a apportée Maurice Pierre. Le coup dur de Tatane, c'est quand il a tué accidentellement un très jeune garçon de 13-14 ans, fils ou enfant à la charge du maire de la mairie attaquée lors d'une récupération de tickets, la mitraillette partant presque seule. Tatane est sorti très affecté de cet accident, changé. Il cherchait la mort, m'a dit Maurice Pierre.
On l'appelait Franco, et il s'est fait arrêter.
C'était pas gentil, il l'appelait Franco.
Non, on l'appelait Franco parce que c'était un Espagnol. Je vous dise même qu'il y en a un qui est enterré là-haut. Il avait bu, il voulait violer les filles du café sur la place de Saint-Dizier. On l'a passé au tribunal, il a essayé de se sauver. C'est les Espagnols qui l'ont récupéré.
Oui, il y avait certaines disciplines dans les maquis. Hein.
Obligatoire.
Et ce maquis qui était relativement nombreux, 135 maquisards, je crois, à la fin.
Oui.
Relativement statique, et on a dit que c'était un peu ça qui avait été la cause de sa perte, quoi. C'est-à-dire que vous déplaciez pas assez souvent et grand groupe.
Et tout le monde le savait.
Et tout le monde le savait.
Tout le monde savait que le maquis était là, et que le soir on allait. Moi, quand j'étais au nid d'aigle, là, on allait écouter la radio chez Dudu, la radio longue chez Dudu. Tout le monde le savait. La preuve, c'est que les deux gars qui ont dénoncé le bazar, c'était, comment je veux dire, c'était pas assez serré, puis ils pouvaient pas serrer. Il fallait bien qu'ils acceptent. Ils avaient bien accepté, les gars. Parce qu'il y a eu beaucoup de monde, surtout en 1944, il y a eu beaucoup de monde dans les maquis. Pourquoi ? Parce que les Allemands voulaient les prendre pour travailler. Non, mais il venait pas au maquis pour faire des coups durs. C'est là toute la différence avec nous. Nous, on était là pour combattre les Allemands. Eux étaient là pour ne pas aller en Allemagne. Dans les maquis FFI, ils étaient bien nourris, ils faisaient du maniement d'armes.
Les temps ne sont plus où les demoiselles prêtaient l'oreille aux tendres chansons que mains soupirants composaient pour elles et leurs murmuraient sous leurs balcons. L'ennemi campe sur monts et plaines, souillant le pays. Tous nos soldats sont chargés de chaînes, notre honneur a fui. Les temps ne sont plus où dans l'allégresse de jolies femmes aux longs cheveux. Aux soldats vainqueurs offraient leur jeunesse, donnaient leur cœur aux horizons bleus. Le gris sinistre partout se mêle aux croix gammées noires. Et nos drapeaux gisent pêle-mêle, cachés, perdus d'espoir. Les temps ne sont plus à gémir sans cesse sur les gloires du beau temps de jadis. La lutte s'offre à toi, brave jeunesse, reprends les armes pour le pays. Des bataillons au maquis se forment, garçon, n'hésite pas. Le corps de nouveau partout résonne, garçon, presse le pas. Les temps sont venus de venger la terre souillée par les soldats allemands. Un seul cri aux armes, la France espère, il faut se battre, la France attend.
Quand j'étais FTP à Lyon, on empruntait leur voiture pour aller leur piquer leur dépôt d'armes. Parce qu'eux avaient des armes, ils ne s'en servaient pas. Nous, on en avait besoin, puis on n'en avait pas. Et c'était leur voiture qui nous servait. Et nous, on n'avait pas de voiture. Et moi, j'étais le chauffeur du groupe FTP Cordeliers.
Alors, on va donc quitter le maquis Vendémiaire, qui a été, je crois, quand même le premier maquis du... dans le Rhône, hein, qui a existé. Quoi.
Oui, avant Chamelet, avant tout. Ça a été... et puis il n'était même pas une idée au début, d'après ce que j'ai entendu. Après, il était...
Concise, Clavesol. Clavesol, hein,
oui.
La commune.
Ben, c'était le
Clavesol. Ferme à Concise, ça doit être un hameau.
C'était le pays du Gorjanot. Et après, ils ont pris le nid d'aigle. Au nid d'aigle, comme cuisinier, on avait le Zé. Le Zé, c'était... Moi, j'avais 20 ans. Hein. Le Zé, c'était un gars qui devait avoir 45 ans, qui était condamné à mort. Et justement, quand on a passé le gars qui avait voulu violer les filles en justice, c'est que le Zé, il dit, moi, je suis condamné à mort, hein, je ne viens pas à ce qui est... Eh oui, il fallait qu'il y ait de la discipline, quand même. Hein.
Lui, il était condamné à mort, pourquoi?
Pour des attaques qu'il avait dû faire, hein. Et puis il était monté au maquis.
Il était identifié.
Donc c'était notre cuisinier. Moi j'ai retrouvé un petit gars de jeune âge qui était là-bas, ben justement pour être planqué, quoi, pour prendre en Allemagne. J'ai retrouvé des gars contre qui j'avais joué au football, parce que bon, ben, on se connaissait pas de nom, mais je te connais, toi, je te connais. Tu jouais pas au football? Ah ben si, mais tu es capitaine de l'équipe de journal. Ah, salaud, tu joues arrière, moi je joue ailier droit, tu m'as fait bouffer le gazon. Et on avait ce docteur juif qui était avec nous.
Qui est devenu quoi? Vous avez pas...
Ah non.
Les actions de déraillement pendant votre séjour au camp, vous en avez fait, non?
Non, plutôt moi je n'ai pas fait de déraillement. On a fait des attaques de mairie pour avoir des tickets. Fallait nourrir les gars.
Ben oui, 125, 130 personnes, c'était pas rien.
Fallait acheter une vache, vendre les cuisses au marché noir pour que les gars puissent casser la croûte. Il y a un cultivateur de Kublis qui nous a monté un tombereau de pommes de terre avec des vaches attelées. C'était pas des chevaux, c'était des vaches qui s'attelaient. Il nous a... Je ne sais pas s'il a été payé hein, par Jeannot, mais il a amené un tombereau de pommes de terre. Et son gendre était au maquis avec nous. J'ai même été couché une fois chez lui à Kublis parce qu'il gérait une ferme avant d'être au maquis. Quoi. Sa femme était là-bas. J'ai essayé de retrouver ça à Kublis, mais... Et ce qu'il y a, c'est que moi, quand la guerre a été finie, tout ça, quand j'ai vu comme ça se passait, tout m'a dégoûté. Quand j'ai vu De Gaulle passer la main sur tout, qu'on s'est retrouvé avec des ministres qui avaient collaboré, bon, ben, moi, j'ai pensé qu'à une chose, hein, à refaire ma vie, et puis c'est tout. Hein.
Un type qui s'appelait Georges Thévenon, vous l'avez connu, celui-là, non, qui était un des fondateurs aussi de ça. Enfin, c'était son nom, c'était pas son pseudo.
Moi, j'ai pas pu connaître un nom. Je l'ai connu après. J'ai connu Claudel, son nom, après la guerre. Pour moi, c'était Muller.
Dardel,
oui. C'était Muller. C'était pas Dardel. Et moi, notre dépôt d'armes, quand j'étais flippé, c'était rue Sontay. Et j'ai vu, sur un bouquin que j'ai eu, où il parlait de la rue Sontay, justement.
Donc vous quittez le marquis Vindémiaire après l'attaque, et vous faites quoi, donc, à ce moment-là?
Eh bien, je suis un mendeur.
Un mendeur. Et vous allez rester longtemps?
C'était sauf qui peut. Non, ben, pas terriblement longtemps. Disons que... La Saint-Maurice, le 22 septembre, j'étais à Mont-d'Or, mais 8 jours après, j'étais FTP.
Vous êtes revenu sur Lyon?
Eh ben oui, parce que j'avais les gendarmes qui me recherchaient d'avoir déserté. J'avais été pour dire bonjour à ma grand-mère, elle me dit « Sauve-toi vite, il y a les gendarmes qui sortent d'ici. » Donc, et je sais pas comment j'ai pu retrouver... pour rentrer au FTP avec Fonlup. Je sais pas. Avec Fonlup, puis avec Dardel.
Fonlup, vous étiez avec lui au maquis.
Eh ben
vous
oui.
Aviez une relation, bon, qui s'était ben coupée
oui,
après.
Mais comment je l'ai retrouvé?
Comment on l'avait retrouvé?
Je me rappelle plus. C'est pas jeune, hein.
Non. Toujours est-il que vous voilà engagé dans un groupe FTP Ville, comme on les appelait. À Lyon,
oui.
Le groupe Cordelier.
Oui, FTP Cordelier.
Alors, il y avait qui dans ce groupe où...
Je l'ai appris après la guerre. J'ai appris que j'étais au camp Vendémiaire après la guerre. Au départ, je ne savais pas. Je ne savais pas que je faisais partie du groupement FTP Cordelier. Il n'y a que sur ce bouquin que j'ai eu dans les mains qui parlait du groupement FTP Cordelier. Et celui-là, il parle des aciéries du Rhône qu'on a fait sauter, il parle du comptoir lyon-allemand, il parle...
Et si je vous cite les noms de Raymond, Loulou, Daniel, Lolo, ça vous rappelle quelque chose? C'est des gens qui étaient avec Antoine Fonlup dans le groupe Ville de Lyon. Mais peut-être pas aux mêmes dates. Hein, enfin.
Non. Non, parce que moi j'ai quitté... Ben, on devait être en décembre 43. Moi, j'ai quitté en décembre 43 parce que j'étais surveillé. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Il faut dire la vérité, on ne faisait pas que ça. on avait du temps de libre. Donc j'avais des feuillets de tickets d'alimentation à moi. Et j'avais une combine avec un gars de la préfecture. Je lui donnais 100 francs par feuillet. Au bout de 6 mois, il me redonnait les feuilles nouvelles. Et je suis... Alors là, j'étais déjà ici. J'étais revenu ici. Je dis à un cousin qui est mort en déportation d'ailleurs, tu viens avec moi, il faut que j'aille à Lyon pour faire changer les feuillets. Donc, on a été dans les deux pièces que j'occupais à Lyon. J'occupais deux pièces.
Vous aviez loué deux pièces?
Oui.
Deux pièces séparées, à deux endroits différents?
Non.
Non.
Il y avait la cuisine et la chambre.
Oui.
On dormait là. On mangeait au restaurant qui était à côté. Avec nous, il y avait, là, je connais le nom. Le gosse, il s'appelait, je ne m'appelle plus son prénom, il s'appelait Pargentino. C'était un Corse. Les dernières nouvelles qu'on a eues de lui, c'était le camp de concentration de Compiègne. Et il y en avait un autre qu'on appelait Panam. Et il a terminé, lui, avec la jambe raide. Parce que je sais pas, je fais mon affaire avec le gars de la préfecture et je dis à mon cousin, c'était pas prévu qu'on parte ce soir-là. Et je dis à mon cousin, ben allez, on fout le camp. On est parti. Pargentino est venu avec nous à la gare. Il m'en est même arrivé une bonne en montant des escaliers de la gare de Perrache, ma petite valise qui s'est ouverte, le 765 puis le 12 mm, et puis les feuillets semestriels dans les escaliers, les deux autres. Et moi, j'ai tout ramassé comme si de rien n'était. Et les Allemands montaient puis descendaient autour de nous. Mais j'ai fait tellement naturellement. On a pris le train ce soir-là. Le petit Pargentino est redescendu au restaurant avec Panam et la milice est arrivée. Donc, pour moi, c'est le restaurateur. Pour moi, c'est le restaurateur. Si je pars pas ce soir-là, je suis faisandé, hein. Et Panam, c'est là qu'il a eu la jambe raide parce qu'il a essayé de se sauver. Ils lui ont tiré dans la jambe. Et quand il était à l'hôpital, chaque fois qu'il était guéri, que les Allemands venaient pour le chercher, on lui recassait la jambe. Et il a fini avec la jambe raide. Et le petit Corse, lui, il a été déporté.
Chant de milice et complice des polices de Vichy. Traque nos frères réfractaires qui se terrent dans le maquis. Mercenaires, tortionnaires, sanguinaires, bon à tout. Les souffrances de la France crient vengeance contre vous. Fous saliques, hystériques, domestiques de Berlin. Pour le Boche qui s'accroche, le rapproche de sa fin. Sa vengeance sans conscience, ni décence, vous devrez, tristes êtres, disparaître pour les traîtres, pas de pitié.
Donc, Donc FTP à Lyon, on vous alloue une somme pour vivre.
Oui.
Vous êtes clandestin, quoi.
Oui.
Faux papier.
Oui.
Tout ça.
Faux papier à mon nom.
Maintenant.
Oui, non mais, quand je me suis fait arrêter à Audincourt, l'inspecteur, il me dit, ils sont faux les papiers. Mais non, ils sont pas faux. Non mais, téléphonez à la mairie de Sochaux. Il téléphone à la mairie de Sochaux. Bah oui. Mais je suis sûr qu'ils sont faux. Je dis, bah ouais.
C'est un bon moyen de...
Hein? Tout ça, c'était rapport à un permis de conduire. J'avais un faux permis de conduire. Que j'avais mis mon nom. Ça se passait comme ça à la préfecture. Si je me faisais arrêter, qu'on demandait des nouvelles, si tel numéro, il a tel nom, le gars disait oui, puis il se dépêchait de mettre le nom. Vous comprenez ce qui se passait? Et tout ça, ça a été détruit par ma mère. Après, elle a tout mis ça à la cave, ça a pris l'humidité, ça s'est tout aggloméré, ça a été foutu. Mais j'avais un permis de conduire, tout. Les autocars, tout.
Camion.
Tout. Moi, je conduisais la traction. On a eu des problèmes avec Fonlup. On a été pour récupérer un dépôt d'armes. Je cherche le nom maintenant. Et c'est marrant parce que...
Si ça revient tout à l'heure, vous cherchez le nom de la rue.
Oui, on allait... Le premier coup, on n'a pas pu y aller. Parce qu'à Lyon, il y avait du brouillard hein, dans ce temps-là.
Ouais.
Alors, justement, Tatane, le fond lup, oh, c'est con. On a la voiture, il faut faire quelque chose. Il y a un flic qui monte la garde au pont. Donc, il y avait le boulevard de Ceinture. J'étais arrêté sur le boulevard de Ceinture, vers un pont, je ne sais pas si c'était un pont de chemin de fer ou... Et d'un seul coup, voilà le flic qui arrive, avec Fonlup, et puis un autre, déshabille-toi. Alors on l'a laissé en caleçon, puis les caleçons dans ce temps-là c'était en toile, hein, blanche, avec des tacons rouges, bleus après. On l'a laissé avec ses leggings, ses brodequins quand même. La casquette, il m'a dit qu'il l'avait payé 200 francs. Donc je lui ai donné 200 francs. On lui a pris la veste et puis on lui a pris la capote, puis on a pris le pétard, naturellement. Hein. Et le gars, il est parti à rire aux éclats. Par un coup, j'ai dit, pourquoi tu rigoles? Je pense aux copains quand je vais arriver au commissariat de police. Ah. On avait fait ça. Attends. Quelque chose d'incroyable. On fait ça, mais comme il y a du brouillard, et puis qu'il y a le couvre-feu, je peux pas ramener la voiture à l'endroit. Donc je la mets dans la rue, derrière l'avenue que j'habitais, l'avenue Thiers. Je la mets derrière, dans la rue. Le lendemain, je cherchais la voiture, la batterie était presque à plat. Je me fais tirer par un camion électrique pour la mettre en route, et je vais ramener la voiture... Où je devais la mettre.
Au FFI.
Oui, au FFI. J'avais un endroit où la mettait, personne ne devait le savoir. Et je revenais quand je rencontre le père d'un gars qui était au maquis avec moi. Et qui, lui, devait me connaître. Parce qu'en passant à côté de moi, il me dit, t'as la clé? J'ai dit oui. Incroyable, pour me renseigner comme ça s'est passé. Alors je lui explique, je lui dis, bon, on n'a pas pu, l'amener hier, donc je l'ai mené là, devant le dépôt d'armes de la rue Sontay, le panier à salade. Qu'est-ce que c'est qu'il me dit? Je ne sais rien. Il faut quand même être un petit peu cinglé, hein. Pour rentrer à la maison, prendre le pétard du du gars et puis aller regarder ce qui se passe dedans. Imaginez-vous qui soit là. On voulait faire une belle boucherie. On rentre là-dedans. Là, il faut vous renseigner là-dessus. On a appris après, un autre groupe avait planté une femme au numéro 1 en face de notre dépôt d'armes, parce que son mari et son fils étaient engagés dans les Waffen-SS et qu'elle dénonçait les jeunes. Elle avait été plantée quand elle épluchait ses légumes. Et moi j'habitais là.
Un autre groupe que le vôtre, vous n'étiez pas du tout.
À 10 mètres de là.
C'était à quelle époque, ça, à peu près? 144, là, on est à début.
Non, 43. C'était où, hein? En novembre ou début décembre, 43. Il y a une femme qui a été plantée dans la rue de Fontaine.
Ici, encore une précision. Effectivement, le 1er décembre 1943, une action revendiquée par les FTP Moy du groupe Carmagnol a été l'exécution d'une dame ganache, connue comme espionne au service des nazis. Il y a tout lieu de penser que c'est de cette action qu'il s'agit dans les événements rapportés par Maurice Pierre.
Et en face, notre dépôt d'armes. Et moi, comme un con, je prends le pétard et je vais au dépôt d'armes pour voir ce qui se passait. Panier à salade, on se demandait pas ce que c'était. Et là, j'ai pas compris comment que le père du copain donc me connaissait. Parce que je l'avais jamais vu. Je ne sais pas comment qu'il me connaissait. Parce que...
Et lui, il vous avait peut-être vu.
Ben certainement, puisqu'en passant à côté de moi, il m'a dit, t'as la clé. La clé de la voiture. Ben, j'ai dit oui. Alors, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il me dit, qu'est-ce que c'est que le panier à salade? Il dit, j'en sais rien, moi. Alors lui, il est parti, mais d'ailleurs, on avait un rendez-vous, Dardel devait venir, quand il a vu le panier à salade, il est parti. C'est dit, j'ai eu, disons, un bol incroyable de tous les côtés. Bon, quand j'étais dénoncé, moi je faisais du marché noir. J'aimais mieux faire du marché noir que dire ce que j'étais.
Mais comment vous vous contactiez? Parce que entre deux actions, vous restiez chez vous, enfin vous alliez vous promener.
On avait des rendez-vous.
Vous aviez des rendez-vous.
C'est justement comme ça que tous les copains se sont fait coincer les uns par les autres.
Ouais.
On avait des rendez-vous.
C'était à quel rythme? Hebdomadaire? Plusieurs fois par semaine?
Ah non, il disait tel jour à telle heure, on se voit à tel endroit. Moi, j'ai vu envelopper une mitraillette dans du papier journal, prendre le tramway, puis aller livrer la mitraillette. Hein. Ma mère était malade, parce que ma mère était venue habiter, là. Elle avait coincé avec mon père, ça avait coincé. Elle était venue avec ma sœur, elles habitaient donc les deux pièces.
Sur les murs et sur les pavés, faites des vies. Mais vous pouvez faire en effet les doriformes. Et sans remords, et sans danger, vous sifflerez et chanterez bébé bébé.
Ainsi se termine cette première émission vendémiaire consacrée à un premier entretien avec Maurice Pierre. Au fil de celle-ci, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes. Tout d'abord, notre générique de début et de fin d'émission, qui est un extrait d'un morceau inédit, une improvisation de Jean-François Baez, qu'il a interprété en direct à Radio Canu. qu'il soit ici très chaleureusement remercié d'avoir accepté que sa musique devienne l'indicatif de cette nouvelle émission. Ensuite, vous avez successivement entendu « La marche des partisans limousins » interprétée par Rosalie Dubois, puis une chanson interprétée par Charlu de Marlotz et Maubon, « J'ai engueulé le patron ». Ensuite, c'est Charles Trenet qui interprétait sa composition « Le Grand Café ». Puis, c'est Boris Knapp qui interprétait la chanson de Macky « Sur les chantiers ». Ensuite, Rosalie Dubois interprétait une autre chanson de Macky « Les temps ne sont plus ». Puis, vous avez entendu Pierre Dac qui, sur ses paroles et sur l'air de la musique de Cordwell, interprétait « Police, milice ». Et enfin, ce sont les Octaves qui, sur la musique de Beethoven et les paroles de Van Mops, interprétait la chanson d'EV. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour et même heure, pour la suite et fin de cet entretien avec Maurice Pierre. Bonsoir.